Vivre FM podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Je reçois avec plaisir Jean-Claude Parent, directeur d'émergence du pôle orientation, formation et emploi, Olivier Martin, coordinateur du site, et Makouf Aït Amouche, notre grand témoin aujourd'hui, apprenti à Monoprix. Ils vont nous parler du projet Vivre qui accueille plus de 2000 personnes par an pour 235 salariés et 20 établissements et services. On va parler plus particulièrement aujourd'hui d'émergence qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans relevant de la santé mentale pour une évaluation, une orientation et une validation des projets et avec un partenariat avec la MDPH. Restez avec nous sur Vivre FM. Bonjour, aujourd'hui nous recevons le centre Vivre Émergence. Je suis avec Jean-Claude Parent, qui est directeur d'émergence. Olivier Martin, vous êtes coordinateur des sites. Vous allez nous expliquer tout ça parce que vous avez plusieurs casquettes. Et on est avec Makouf aussi, qui est le grand témoin d'aujourd'hui. Comme ça, qui va nous parler, qui va nous dire la vérité. Alors, Jean-Claude Parent, vous êtes pas seulement directeur d'émergence. Dites-nous tout ce que vous faites.
Merci Anne de nous accueillir d'abord. Je suis en effet aussi responsable du pôle orientation formation emploi, qui est un des trois pôles de l'association Vivre. Le pôle orientation formation emploi, je vais me concentrer peut-être un peu plus sur celui-ci, au moins pour l'instant, on verra après, comprend à la fois deux centres de préo spécialisés, préorientation spécialisée handicap psychique, un qui est situé sur Gentilly, l'autre qui est rue Froment, dans le 11e, sur Paris. Et puis le CRP, centre de rééducation professionnelle. Voilà, très rapidement. Et enfin, donc, je suis le directeur, comme vous le disiez juste avant.
D'émergence.
Voilà. D'émergence, que je présenterai peut-être un tout petit peu plus précisément après, ou j'attaque maintenant.
Ah bon, on peut attaquer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute une galaxie quand même, Vivre. Hein, le centre, on s'y retrouve pas toujours, donc ça
oui,
serait bien que
le grand principe de Vivre, c'est on part sur un slogan, c'est l'idée d'un parcours en continu. Et le vivre ensemble. Donc on prend, sauf la partie sanitaire, encore qu'il y a un hôpital de jour sur Châtenay-Malabry, mais on est surtout à travailler auprès d'établissements médico-sociaux, donc sur à la fois une partie hébergement, une partie formation, une partie orientation, une partie bilan.
Oui, c'est ça qui est bien. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez de l'hébergement, oui. Ce qui souvent manque, effectivement, aux personnes qui veulent faire d'une orientation ou une préorientation, l'hébergement manque. Vous avez tout.
Oui,
vous avez
on a tout.
Vous avez planifié le parcours.
On a à la fois un CHRS, ouais. Donc qui est un centre d'hébergement et de résidence sociale. On a une nouvelle, on va dire, structure très intéressante qui est une résidence sociale, qui est à rue Saint-Maur, qui accueille des personnes aussi en situation de handicap psychique. Et on a aussi.
De toute façon, vous êtes beaucoup sur la santé mentale, l'handicap psychique.
Oui, on est reconnu dans le cadre du handicap psychique, en effet.
C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on se rencontre souvent.
Merci. Voilà, exactement.
Donc, vous êtes plus précisément, en particulier, on va parler d'émergence et puis de la formation.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est important, je pense, pour vous, d'être pris dans toute cette galaxie qui fait que le parcours, vous n'avez pas à vous occuper forcément de l'hébergement, mais vous savez qu'il existe dans le parcours.
Tout à fait. Et on sollicite les services quand il le faut, en fonction de la prise en charge qui est demandée à chaque usager que l'on reçoit. Alors, nous, au niveau d'émergence, on intervient sur plusieurs dispositifs. On va dire qu'on a 3-4 dispositifs importants. Une partie de l'activité qui est dédiée à tout ce qui est bilan de compétences spécifiques, particulièrement au regard des personnes en situation de handicap, forcément, mais pas que. On pourrait aussi accueillir toute personne valide dans le cadre de ces bilans de compétences.
Oui, vous le faites.
Ça reste exceptionnel.
Vous devez quand même avoir beaucoup de travail avec le handicap, donc.
Exactement. Avec une spécialité qui nous était reconnue, c'était la déficience visuelle, puisqu'on avait une convention pour des demandeurs d'emploi déficients visuels. Convention, j'en profite malheureusement pour le dire, qui a été supprimée par le financeur. Mais on a cette reconnaissance, on avait établi un joli partenariat aussi avec le centre Guinaud, donc qui s'occupait de la partie bilan fonctionnel au niveau de la déficience visuelle, et on s'occupait, nous, de la partie vraiment bilan de compétences.
Mais sans vouloir parler de choses qui fâchent, les aides financières ont quand même tendance à diminuer d'une façon générale, enfin chez nous en tous les cas.
Oui,
alors. J'espère que pas chez vous.
Si, malheureusement, on est aussi touché de fait. Plusieurs raisons à cela, à mon avis. On est, nous, centre de formation, au titre de Vivre Émergence, et donc on répond à les appels d'offres. Donc là, on est tenu à répondre à les appels d'offres et être en concurrence avec le milieu lucratif qui arrive.
Pourtant, ça se bouscule pas sur la maladie mentale, la maladie psychique, ça se bouscule pas quand même.
Écoutez, Anne, il y a des gens qui se prétendent maintenant avoir d'un seul coup une motivation pour s'occuper des personnes en situation de handicap. Donc on lutte un peu contre ça, on lutte aussi sur le fait que les pouvoirs publics se désengagent quand même financièrement sur un certain nombre d'actions. On n'est pas les seuls non plus sur le marché, donc on est lié à la concurrence. Je parlais des bilans de compétences, il suffit de regarder, nous on a des agréments, des habilitations pour faire des bilans de compétences, ANFH, AFDAS, Uniformation, Fongessif, etc. Il suffit de regarder sur le territoire parisien, et je vais me rester sur Paris, le nombre d'organismes habilités pour mener des bilans, c'est quelque chose, donc il y a une vraie concurrence, quoi. On a l'avantage, nous, c'est qu'on est, on a l'expérience.
On a une vraie concurrence dans les dossiers, je dirais.
Dans les dossiers déposés. Mais on sait bien aussi que non seulement il y a des restrictions budgétaires, mais il y a aussi, pour des acheteurs potentiels, des clients, hein, faut appeler un chat un chat, des baisses aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est quand même à retenir maintenant, pas forcément la qualité, mais au moins le moins 10 ans. Voilà, c'est ce qui prime souvent comme critère, c'est avant tout le coût d'une action qu'on peut mettre en place.
Mais vous, vous avez 70 ans, enfin pas vous,
merci à
Jean-Claude, qui êtes bien jeune, mais la structure, l'association a 70 ans, on a fêté les 70 ans, je ne sais plus quand d'ailleurs.
Oui, il y a 3 ans maintenant déjà, il y a déjà 3 ans, donc on en est à 73.
Je croyais que c'était un an.
Non, on va fêter nos
73
ans.
Donc il y a quand même un passé important quand même, il y a un savoir-faire.
Tout à fait, il y a un savoir-faire, un passé, une reconnaissance. Vis-à-vis de certains clients, de certains prestataires, de prescripteurs, prescripteurs étant les Cap Emploi, Pôle Emploi, etc., qui nous délivrent un petit peu des possibilités de mettre en place des actions par rapport aux usagers. Mais malgré cette expérience, je vous dis, c'est devenu un vrai marché, le handicap aussi, il faut dire les choses. Donc,
Alors le handicap dans son ensemble, oui, mais je trouve qu'il y a moins de personnes quand même qui se positionnent sur la maladie psychique. Et que ça craint un peu quand même.
Oui, j'allais presque dire, il y a un vrai constat, c'est que il y a une vraie évolution aussi dans à la fois la définition qu'on pourrait donner du handicap psychique, mais aussi d'une partie de la population qui souffre de plus en plus de ce type de mal.
Oui, qui sont plus borderline dans le.
Oui. Alors c'est lié à l'évolution de notre société.
Voilà,
le travail, on demande toujours plus, la rentabilité, la production, enfin tout ce que vous savez, plus le stress lié à notre vie quotidienne. Donc ça pose
énormément de soucis. Étonnant.
Voilà, exactement.
Il y a combien de personnes à peu près de salariés?
Dans l'ensemble de l'association, il y a 230 salariés et 50 travailleurs en ESAT. Donc, qui ont le statut de travailleurs, qui sont salariés. Et donc, ça ferait, si on les compte, 200, et on doit les compter, ça ferait bien évidemment 280 salariés.
Oui,
avec un turnover sur les personnes accueillies, à peu près 2000 personnes par an. Voilà.
Oui, quand même. Oui.
Le tout regroupé autour, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, de 3 pôles et d'une vingtaine de 20, pas d'une vingtaine, 20 pour être précis, établissements et services. Voilà.
Et Vivre Émergence, vous êtes combien d'encadrants à peu près
Alors au total, on est c'est une activité qui permet de faire osciller un petit peu aussi les équipes. On est en moyenne entre 20 et 25 salariés. Alors pourquoi je dis 20 et 25 en moyenne? Parce qu'on est tenu aussi à des marchés. Encore une fois, on répond à des appels d'offres. Ce sont des marchés à durée relativement courte, et donc on est à faire appel à des auto-entrepreneurs, des gens qui sont hautement qualifiés pour prendre en charge les demandes des usagers. Mais qui peuvent travailler ponctuellement sur des missions bien déterminées.
L'auto-entreprise, c'est quand même une bonne chose. Ça aide quand même beaucoup.
Ça, au moins, ça m'aide, moi, en tant que responsable d'émergence, à pouvoir répondre au marché.
C'est quand même important.
Oui, tout à fait.
Mais alors,
c'est juste une dernière chose, c'est juste une nouvelle difficulté aussi, c'est qu'on est sur des marchés à temps réduit. C'est-à-dire qu'on travaille sur des périodes d'une à trois années maximum. Voilà, il faut se remettre en question sans arrêt, il faut innover. Ce qu'on doit apprendre à faire aussi, parce qu'il ne faut pas attendre simplement des appels d'offres.
Mais ça, on est obligé,
Il faut essayer d'anticiper un petit peu les besoins et de répondre à ça.
Et vous, il y a combien de temps que vous travaillez dans cette association?
Je suis tout nouveau.
Ah bon?
Non. Si ça ne fait pas très très longtemps, ça fait que 3 ans que je suis en poste. Voilà.
Ah bah oui. Je vous avais rencontré dans d'autres endroits, donc
peut-être.
Voilà, ça est une autre histoire.
Voilà.
on reviendra après sur ça. Alors, Olivier Martin, vous êtes coordinateur de site. Alors, qu'est-ce qu'un coordinateur de site?
Alors en fait, historiquement, pour Emergence, il y a 3 sites géographiques en Île-de-France. Il y en avait 2 à Paris et 1 sur Évry, dans le 91. Et les 2 sites parisiens se sont regroupés dernièrement, mais il y avait sur chaque site un coordinateur.
Vous coordonnez les coordinateurs.
Donc grosso modo, j'ai gardé mon statut de coordinateur de site pour le site qui subsiste.
Paris donc.
Sur Paris 13e.
Et dans le 13e, il se passe plein de choses quand même. Hein.
En termes d'actualité, il y a la halle Fraissinet qui est investie par Xavier Niel, directeur de Free, qui va installer 1000 startups juste en face de chez nous. Donc ça bouleverse pas mal le paysage du 13e arrondissement.
Est-ce que ça va vous aider?
Alors, déjà, on a pris contact avec eux pour une visite de site, parce que là, il y a des chantiers, donc il y a plein de métiers qui sont présents. Et je vais en venir à expliquer un petit peu l'activité. En fait, en tant que coordinateur, je coordonne avant tout un dispositif qui s'appelle Pass Jeune Emploi, qui existe depuis une quinzaine d'années, dont le financeur est la GFIP. Et l'objectif de ce dispositif, c'est d'aider des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans, en situation de handicap, à élaborer et à valider un projet professionnel.
Là, c'est tout handicap, là.
Alors, c'est plus spécifiquement, on a une certaine réputation sur le retard mental et les troubles psychiques. Voilà. On a ce savoir-faire, mais on va dire que c'est ouvert à tout handicap.
Oui, si quelqu'un...
Voilà.
Vous êtes ouvert à toute inscription.
Voilà, exactement. Donc, dans le cadre de l'élaboration professionnelle, on est amené aussi à faire des visites en entreprise pour faire découvrir aux jeunes qu'on accueille des métiers.
Oui, donc vous êtes le relais entre l'entreprise, savoir ce qu'elle demande, en fait.
Exactement.
Quels sont ses besoins et puis couvrir ses besoins.
Donc, la finalité, c'est vraiment l'insertion professionnelle. C'est vraiment le fil rouge. Pour ça, donc, les jeunes qu'on accueille, on doit prendre en charge leurs difficultés. Donc, en fait, dans le parcours, il y a 3 parties. Une première partie d'évaluation des candidats pour apprendre à les connaître, connaître leurs difficultés, leurs compétences,
c'est mieux,
etc.
Voilà.
Suite à ça, il y a une orientation. On décide si on pense que notre dispositif peut répondre à leurs attentes, auquel cas on les intègre dans la deuxième partie du parcours, ou alors on leur propose une orientation plus adaptée en fonction de ce qu'on a vu avant.
Tout à fait. Et vous avez un bon réseau, donc ça aide.
Alors justement, voilà, dans la deuxième partie du parcours qui est l'élaboration et la validation du projet professionnel, c'est là qu'on va rentrer en contact avec les entreprises.
Alors, on va faire juste une pause musicale, je vous arrête, parce que c'est important ce contact avec l'entreprise, c'est pas toujours fait ça par contre. Donc on va revenir avec vous sur les entreprises et on fait une pause musicale en attendant.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Alors, j'ai juste arrêté Olivier Martin, qui est coordinateur de site, pour le rapport avec les entreprises, qui est extrêmement important. Je pense qu'on arrive à placer des gens quand on sait ce que de l'entreprise attend. Et puis aussi, lui expliquer les capacités, les difficultés. Alors, comment est-ce que vous êtes accueilli dans les entreprises? C'est facile, difficile, ça dépend des entreprises?
Alors déjà, la raison pour laquelle moi, j'avais été embauché dans cette association... D'abord, un poste de chargé d'insertion professionnelle. C'est justement parce que j'avais une bonne connaissance du monde de l'entreprise. Moi, j'ai eu un premier métier avant, qui était l'informatique. Dans ce cadre-là...
Vous travailliez en entreprise.
Des sociétés de services, beaucoup, et beaucoup d'interventions dans le public, dans le privé, dans des grosses boîtes,
donc
des
voilà,
boîtes,
c'est une façon de
budget,
bien connaître,
budget.
Effectivement.
Et je connaissais...
Le terrain,
les attentes, les exigences du monde du travail. Donc ça, c'est un poste clé quand on est chargé d'insertion, c'est de connaître déjà notre interlocuteur. Donc, à Pass Jeune Emploi, voilà, on connaît l'entreprise, on met en place beaucoup de stages déjà pour les jeunes. L'année dernière, à titre indicatif, on a mis en place 163 stages de 1 mois. Et à chaque fois qu'on fait un stage, que les jeunes font des stages, on se déplace pour faire un bilan de stage. Ah. Et là, on rencontre un professionnel, souvent un responsable, et on échange avec lui. Donc lui, il nous donne ses attentes, et nous, on va lui donner toute notre connaissance du public, donc comment l'accueillir, les bonnes pratiques, pour faire en sorte que l'expérience en entreprise soit réussie, une réussite. Donc ça passe par l'accueil, ça passe par le suivi. Et nous, en plus de l'insertion, on se propose de faire le suivi qui est justement primordial.
C'est primordial.
Pour que ça tienne.
Pour les deux, hein. Aussi bien pour le jeune que vous placez que pour l'entreprise.
Absolument. Pour l'entreprise, l'idée, c'est de lui dire, chacun son métier. Le handicap, nous, on connaît, c'est notre spécialité. Vous, vous avez une activité. Donc, si vous accueillez un jeune et que vous rencontrez des difficultés pour que ça se déroule bien, bah, faites appel à un spécialiste. Vous passez un petit coup de fil.
Oui, ils sont à vie.
Et en général,
c'est, oui, bah oui, c'est sécurisant quand même.
Voilà. C'est pour ça qu'on a un partenariat avec énormément d'entreprises sur toute l'Île-de-France, parce qu'en fait, notre secteur, c'est l'Île-de-France dans sa globalité. Donc, voilà. Ce rapprochement avec les entreprises fait que on a des résultats.
C'est bien, 160 stages, c'est vraiment bien, oui.
Oui.
Alors, nous avons un grand témoin qui est Maclouf. Alors, vous, vous êtes passé par ce centre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez trouvé votre expérience?
En fait, moi, je suis rentré à Page à l'emploi le mois de septembre 2013. En fait, au début, j'avais un projet professionnel, c'était d'exercer un métier en rapport avec l'environnement. Vu mes difficultés de santé, donc je ne pouvais pas exercer ce métier-là, donc j'ai dû changer de métier, en fait.
Bah là, dans l'orientation, ils vous ont aidé.
Après, en fait, au début, ça n'a pas été facile.
Mais non, des fois, c'est pas facile de se dire, je vais changer, mais...
Parce que j'étais complètement perdu, je savais plus quoi faire. J'ai traversé même une période très difficile.
Alors là, Émergence vous a bien aidé.
Mais grâce à l'association qui m'a beaucoup aidé, m'a soutenu. Et donc après, ils ont mis en place des stages. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert la grande distribution.
Oui, puis vous avez vu qu'en fait, ça fonctionnait bien.
Le premier stage, je l'ai effectué chez Simply Market. Ça a été très bien passé.
Ah bah, ça donne confiance quand même. Hein.
Après, ça m'a redonné beaucoup confiance. Parce qu'avant, j'ai perdu espoir et ça m'a redonné espoir.
Et puis après, vous avez continué. Alors
après, j'ai enchaîné des stages, en fait, toujours dans le même domaine. Après, j'ai fait des stages chez Hyper Casino.
Et puis maintenant, ça y est, vous êtes salarié?
Maintenant, je suis apprenti, oui.
Ah ouais, bah c'est pareil.
J'ai le statut de salarié.
Oui, oui. Bien sûr. Et vous, c'est bien. Et toujours dans la grande distribution?
Toujours. Ah. Et c'est grâce à ce stage que j'ai décroché mon contrat d'apprentissage.
Ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes là qui en sont, quand vous étiez au début, là, complètement découragés?
Bah, de s'accrocher et de ne pas perdre espoir. Parce que moi, je l'ai perdu, je l'ai retrouvé quand même.
Et puis, peut-être de s'approcher aussi des gens qui peuvent aider. Faut pas rester seul chez soi, quoi, en fait.
Ah, bien sûr, ça, il faut toujours. Moi, avant, je n'ai pas hésité au début à demander de l'aide.
Ah, ben ça, c'est bien, mais après, vous dites ça comme si c'était naturel, ça l'est pas toujours.
Traversé une période très difficile, après j'ai craqué, et j'ai senti que sans cette aide, je n'aurais dû pas sortir aujourd'hui.
Mais vous avez quand même demandé de l'aide, ce qui n'est pas évident des fois quand on va
c'est
pas
vrai,
bien,
ouais,
on
c'est
s'enferme.
Surtout qu'on n'a pas confiance, on a perdu confiance, on voit tout.
Voilà, on s'enferme, on dit il n'y a pas de chance.
Il n'y a pas de solution de ça, mais...
Mais vous l'avez fait quand même.
Si je n'avais pas parlé, franchement, je ne m'en sortirais pas.
Ouais, donc trouver quelqu'un qui parlait puis qui connaît.
Vraiment, c'est l'équipe Page à l'emploi, c'est une équipe compétente et professionnelle. Ils sont là pour aider les personnes en situation de handicap.
Et ils connaissent bien. Alors, comment on fait justement? Je suis désespérée, je suis chez moi, je suis enfermée. Comment je vous joins? Qu'est-ce que je fais pour
3615 Page jeune emploi.
C'est vrai? C'est génial ça. J'appelle 36.
Alors nous, en fait,
jeune, moi, c'est trop tard, mais bon.
On passe par des prescripteurs. J'osais pas relever ce petit détail. On passe par des prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont les missions locales, les Cap Emploi, le Pôle Emploi et les établissements IME, IMPRO, donc instituts médico-éducatifs et médico-professionnels.
Même les PH?
Non, ce n'est pas un prescripteur.
Ah oui.
Donc ça, en fait, c'est le financeur qui va, dans son cahier des charges, définir qui sont les prescripteurs. Il arrive que la MDPH fasse appel à nous, parce qu'en fait, nous sommes les experts. Pour la MDPH, par exemple...
Les experts, ça fait très Miami, mais bon.
Mais oui, il y a un petit côté, on ne voit pas la radio,
côté,
mais les lunettes de soleil.
Oui, non, mais c'est dommage qu'ils ne vous voient pas, c'est vrai.
La MDPH, donc ils ont des psychologues qui vont statuer sur l'orientation, milieu protégé, milieu ordinaire, par exemple, pour des jeunes en situation de handicap. C'est une décision qui n'est pas toujours facile à prendre parce qu'on est toujours un petit peu entre deux.
Il y a une dizaine d'années, j'avais des gens qui avaient les deux Ça, c'était accès extraordinaire. J'ai reçu deux, trois personnes qui avaient les deux. Je pense que la MDPH avait hésité. Il n'y avait pas la MDPH à l'époque. Mais ils avaient hésité, donc ils avaient les deux. Ce qui était assez facile, en fin de compte. C'était peut-être plus facile pour la personne, parce qu'elle pouvait essayer les deux et voir ce dans quoi elle était le mieux. Donc, je pense que faudrait revenir à ça.
Notre dispositif peut également servir à ça.
Ça, c'est bien.
Avec la MDPH, donc, s'ils ont besoin, quelque part, de notre expertise, ils peuvent faire appel à nous. Après, bon, il faut passer par un prescripteur officiel, mais l'idée, c'est donc d'utiliser la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure d'évaluation pour déjà statuer un petit peu sur l'orientation. Milieu protégé, milieu ordinaire.
Mais on peut pas le faire avant la MDPH, c'est ça? Souvent, les gens, ils l'ont déjà.
En fait, nous, le prérequis, c'est qu'il y a simplement une demande qui a été faite.
Très important, ça.
Forcément, l'obtention.
Ah, c'est important, ça.
Donc, c'est bien parce que, justement, on peut, du coup, dans...
C'est super important.
Aider à la prise de décision, le choix de l'orientation, etc., etc.
Ben vous voyez, j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. C'est très important. Donc, on peut être envoyé par Cap Emploi, Pôle Emploi ou les prescripteurs et dire voilà, je sais pas très bien, je voudrais dans l'orientation présenter un dossier à la MDPH. À ce moment-là, vous pouvez aider sur le dossier. J'ai bien résumé?
C'est tout à fait bien résumé. Oui. On accepte complètement des bénéficiaires ou des futurs candidats qui sont dans une reconnaissance, en cours.
Et comme c'est long, ça vous laisse du temps.
Oui, exactement.
Il peut même y avoir des gens qui ont une orientation vers le milieu protégé. Alors nous, notre objectif, c'est le milieu ordinaire. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais c'est important. Donc, insertion professionnelle en milieu ordinaire, c'est vraiment...
Vous avez bien parlé des entreprises, donc j'ai bien pensé que c'était l'objectif.
Et donc, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui viennent du milieu protégé, qui souhaitent en sortir, tenter l'aventure.
Oui, il faut savoir que c'est possible.
C'est pas simple. Souvent, ça demande du temps.
C'est mieux. Je crois que ça devient mieux quand même, parce qu'il y a 5-6 ans, c'était quasi impossible.
C'est beaucoup plus dans l'air du temps, en tout cas. Chose importante aussi, notre dispositif en termes de délai, c'est 3 semaines pour la première partie d'évaluation et 5 mois simplement pour faire l'évaluation, l'élaboration de projet et la validation. Alors la validation, ça veut dire, dans ces 5 mois, il y aura 2 stages en entreprise et c'est le 2e stage... Où quand on fait le bilan de stage, on demande à l'entreprise, c'est elle quelque part qui va statuer.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pensez, par exemple, que MacLouf doit continuer dans cette branche professionnelle?
Et puis souvent, la personne elle-même, elle sent bien. Je peux ou je peux pas.
Tout à fait. Mais bon, on a besoin quand même de prendre un certain...
Recul.
C'est pas nous, en fait, les spécialistes de l'entreprise. C'est l'entreprise elle-même. Donc, c'est encore plus objectif, quelque part, comme prise de décision. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour MacLouf.
MacLouf, on dit très bien, il peut continuer.
C'était une véritable révélation aussi pour MacLouf. Donc je crois que c'était vraiment une belle histoire. C'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs.
Mais vous aviez une orientation milieu ordinaire quand même au départ.
Oui. Ah. Toujours milieu ordinaire. En fait, mon premier stage, j'ai effectué en tant qu'agent administratif chez En Direct Service dans le 13e arrondissement. En fait, ça a été très bien passé, mais le problème, en fait, j'étais très lent, en fait. Je faisais de bon travail, mais même le tuteur, il était satisfait de moi, mais en fait, j'arrivais pas à tenir la cadence.
La grande distribution, c'est plus facile.
Oui, je trouve ça, c'est plus facile, ouais.
Alors, j'interviens juste pour dire, parce que la grande distribution, c'est vrai que c'est très vague.
Mais c'est très...
Pour MacLouf, en l'occurrence, ce qui a plu, parmi le travail qu'on fait avec les entreprises, là, on a fait intervenir notamment une entreprise qui est venue chez nous pour rencontrer les jeunes et présenter des métiers. Et suite à ça, il y a MacLouf qui a été identifié comme étant intéressé pour découvrir le métier. Et on a mis...
Alors lequel au milieu de la grande distribution, parce que c'est large?
Alors justement, c'était plutôt l'accueil. Il se trouve que MacLouf, c'est quelqu'un qui est très souriant,
qui est très
avenant.
C'est vrai qu'il a un très beau sourire.
Et très à l'écoute des gens. Ça a marqué tout de suite l'interlocuteur, l'entreprise. Et on a pensé très vite à un métier d'accueil. Alors, il y a des nouveaux métiers maintenant, enfin, nouveaux avec des guillemets, mais dans la grande distribution, c'est les caisses dites automatiques, où en fait, les gens...
On a besoin d'aide.
Voilà. Les gens essayent désespérément de passer leurs articles tout seuls. Et là, il y a MacLouf,
c'est
avec
génial, ça.
Son
c'est très bien.
Sourire et sa bienveillance, qui va aider les personnes et qui a la grande qualité de fidéliser les clientes, figurez-vous.
Ah, mais ça ne m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas.
Donc ça a été identifié très vite.
Mais c'est vrai qu'en plus, c'est intelligent comme métier parce que les gens ont besoin de vous, ils sont un peu perdus. Donc là, vous êtes vraiment celui qui guide, qui montre comment il faut faire et ça, c'est vraiment bien.
J'aime bien surtout aider les personnes âgées qui sont perdues.
Et avec votre beau sourire.
Il ne faut pas rester trop longtemps debout, donc il faut.
Avec votre beau sourire, ça marche. On va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après pour la suite et merci Maclouf parce que c'est intéressant.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Nous sommes toujours avec Vivre Révergence. C'est la dernière partie, ça passe vite, faudra revenir. Je suis toujours avec Jean-Claude Parent, Olivier Martin et Maclouf, notre témoin vedette. Jean-Claude Parent, il y a encore des choses qu'on n'a pas vues. La MDPH, par exemple, comment ça fonctionne? Parce que là, j'ai appris quelque chose d'important quand même. On peut venir vous voir alors qu'on est, on a fait une demande MDPH, mais on n'a pas encore statué sur notre travail protégé, travail milieu ordinaire.
Oui, Anne. Alors ça, c'est juste, mais c'était par rapport au dispositif dont a parlé Olivier Martin. Maintenant, puisque vous parlez de la MDPH, je voudrais vous faire part justement d'un gros gros dispositif que la MDPH 75 nous a aidé à mettre en place. Donc, on a répondu à un appel d'offres, hein, comme j'ai pu l'expliquer brièvement dans la première partie. On a remporté ce marché. J'emploie un vocabulaire qui peut être surprenant, mais
non,
je vous en remercie. Et ce marché, on l'a récupéré dans la mesure où on a répondu au titre du pôle que j'ai présenté avec à la fois les deux centres de préorientation et le CRP et Émergence. Donc, on a montré qu'on était quand même une association solide, capable de porter ce type de marché. Alors, ce marché est ouvert depuis le mois d'avril, censé pendant 24 mois accueillir 200 personnes sur une formation qui s'appelle Potentiel Emploi. Alors j'insiste sur le mot potentiel parce qu'on entend souvent et forcément, particulièrement pour les usagers, les familles, etc., surtout la partie emploi. C'est pas l'objectif premier de mettre l'ensemble des personnes que l'on va accueillir au travail. Ça serait, on le souhaiterait tous, hein, bien évidemment.
Peut-être que les personnes ont besoin d'un peu de temps aussi.
Mais c'est surtout l'idée de déterminer le potentiel par rapport aux personnes qui nous sont envoyées. Il y a une psychologue qui a été recrutée spécifiquement donc par la MDPH 75 qui s'occupe de voir un petit peu quelles personnes pourraient intégrer ce type de dispositif. Alors c'est un dispositif qui est présenté sous forme modulaire avec 6 différents modules qui partent donc d'un premier entretien avec l'identification des personnes qui ont été remarquées par la MDPH, reçues par leur psychologue. Il y a une convocation, on reçoit ensuite nous pour aussi notre premier entretien, où là on valide un petit peu la prise en charge, et puis après, en route, on est parti sur à la fois du bilan de compétences, viser un petit peu le potentiel de la personne, son aptitude à s'engager sur un parcours, voire tester ce qui aura pu être mis en place au niveau des projets professionnels dans le cadre de petites périodes d'application en entreprise, et puis après l'accompagnement donc jusqu'à l'orientation. Là, on le souhaite, bien évidemment.
Et combien de temps pour la personne?
Sur la durée, au total, c'est relativement court. En termes d'heures consacrées à ce type d'opération, c'est aux alentours de 25 heures. Mais dans la durée, ça peut s'étaler sur à peu près 3 mois. Voilà. C'est un dispositif qui a démarré depuis le mois d'avril et donc qui court, comme je l'ai dit, sur 24 mois. Alors ce que l'on souhaite aussi, nous, c'est diminuer la durée entre chaque module. Était prévu, c'était un mois entre chaque module. On sait aussi que à partir
c'est
du moment
beaucoup,
où il y a de l'intérêt de la part de la personne pour suivre ce type de formation, il faut garder cet intérêt. Donc on vise à justement une certaine autonomie, une certaine responsabilité par rapport à ça. Donc quand quelqu'un est vraiment mort à l'hameçon, entre guillemets, a envie et motivé pour entreprendre ce type de parcours, il faut pas laisser trop de temps entre deux rendez-vous, il faut vraiment les maintenir.
Oui, moi je pense, sinon après, on peut se rendormir un peu.
Avec certaines précautions.
Vous découragez d'ailleurs.
Tout à fait, certaines précautions qu'on a pu prendre aussi, c'est à partir du moment où un usager démarre un parcours dans un endroit, il restera pendant toute la durée sur le parcours au même endroit.
Avec les mêmes personnes.
Avec un même référent, exactement.
C'est très important.
au moins un référent, puisque après on a une équipe pluridisciplinaire.
Oui, un même référent. Voilà, mais il sait à qui s'adresser.
Tout à fait. On a comme intervenant médecin, psychologue, clinicien, chargé d'insertion, donc un certain nombre de personnes qui peuvent intervenir, mais on a un référent dans le cadre de chaque parcours.
Et alors comment ça se passe depuis avril? Parce que quand même, c'est pas long, mais quand même, vous avez.
Alors, je suis pas très chiffre, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'on est parti de loin, puisque la MDPH a repéré, de mémoire, environ 200 personnes qui auraient pu suivre ce type de dispositif. Les trois quarts ont été contactés, la moitié a été reçue, etc. Mais on arrive quand
même...
C'est déjà pas mal. Mais quand je dis reçu, c'est pas la MDPH et le psycho de la MDPH. Mmh. En ce qui nous concerne, on a entrepris 34 parcours, ce qui est déjà quand même pas mal quand on sait qu'on a 200 places sur 2 ans. Mmh. 34 en 3 mois, c'est plutôt pas mal.
Oui, c'est déjà
pas mal.
Vous allez en recevoir plus, là, tel que vous êtes parti, là.
Oui, alors là, on est comme tout le monde, on a une période d'été, mais après, oui, on sait, pour avoir fait le point de situation avec MDPH il y a 8 jours, donc on sait qu'on va avoir pas mal de prescriptions à partir de septembre. Voilà, je pense que c'est un beau dispositif. Encore une fois, c'est un vrai partenariat avec MDPH et ça fait plaisir.
On est capable d'échanger, discuter,
on ne fait qu'améliorer les choses et c'est quelque chose d'important pour nous. On se comprend bien.
Voilà. Bon, bravo à la MDPH 75 parce
tout
que c'est
fait.
Vrai qu'on, des tout fois, fait, on reproche remercie. Un peu de pas faire trop de choses, mais ça c'est bien.
Ouais.
Ça c'est vraiment bien. Et alors, quel genre de, alors là, c'est aussi jusqu'à 30 ans?
Non, là c'est plutôt la moyenne d'âge. Donc
on a des gens. Je sentais que.
Respect pour les plus
Martin,
anciens aussi.
Olivier Martin, c'était moins de 30 ans, plus de 30 ans, point de salut.
Non, nous c'est plutôt l'inverse. On reçoit plutôt une population un peu plus âgée, on va dire, avec un niveau scolaire, une expérience professionnelle aussi.
Une rupture de parcours.
Les incidents de la vie, comme on dit. Donc. Avec une rupture de parcours et des gens qui sont stabilisés quand on les reçoit et qui sont prêts dans cette démarche donc d'entreprendre un petit peu quand une envie. Exactement.
Ça, c'est important. Il y a plus de garçons, plus de filles ou c'est à peu près pareil?
Vous me posez l'école, Anne. Ouais, je regarde pas, mais je pense que
je pense
qu'on est à peu près à l'équilibre et à la mixité et à l'équité par rapport à tout ça.
Et ça vaudrait le coup. Alors là, c'est personnes handicapées puisque c'est la MDPH.
Handicapé psychique uniquement.
Ah, uniquement, ça
la
c'est
MDPH
bien.
La MDPH reçoit tout handicap, mais le dispositif, oui. C'est uniquement le handicap psychique.
On voit tout de suite que c'est mon dada parce que j'y sais bien. Le handicap psychique, d'accord.
Oui.
Oui, parce que c'est vrai aussi que, bon, je dis ça, mais c'est vrai aussi que le handicap psychique est quand même moins bien servi en bilan quand même et en parcours, en accompagnement de parcours que d'autres handicaps.
Oui, encore que nous, ça fait partie de nos métiers.
Oui, mais il y a moins de structures qui font.
Oui, tout à fait.
Nous existons, mais il y a moins de structures quand
tout
même.
Tout à fait.
Mais
on essaye de faire connaître un peu et au grand public et aussi à d'autres partenaires. Je pense aux entreprises, par exemple, que le handicap psychique, c'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir, c'est pas forcément l'interprétation, au moins celle qu'on nous renvoie qui est la bonne. Donc, on essaye de sensibiliser un certain nombre de partenaires. Et d'entreprise à l'accueil justement de ce type de population. On essaye aussi de sensibiliser l'encadrement à la détection.
Oui,
parce
la sensibilisation, on en parlait beaucoup il y a une dizaine d'années, on en parle de moins en moins et je trouve que c'est dommage.
C'est dommage parce que il faut sensibiliser les entreprises non seulement à l'accueil de personnes en situation de handicap. Maclou fait la preuve de la réussite, donc et les entreprises s'en félicitent aussi. Mais c'est aussi, et malheureusement, je parlais dans le cadre de la MDPH, des incidents de parcours, des salariés peuvent aussi être à même de subir ce type d'incidents de parcours. À nous de former les encadrants à détecter justement les signes qui permettent de dire attention, on a un collègue qui est en train là d'un petit peu de perdre pied, il faudrait peut-être comment on peut détecter, comment on peut l'aider, les bons mots à trouver, la bonne situation, le poste qu'il faut peut-être changer, etc. Donc nous on intervient aussi dans ce domaine-là.
Alors dans le maintien dans l'emploi. Alors est-ce que vous trouvez pas quand même qu'il est plus difficile souvent de maintenir dans l'emploi une personne qui est là depuis 5, 6, 10 ans et qui d'un seul coup que les collègues ne reconnaissent pas, c'est plus difficile que d'embaucher une personne qui est stabilisée, accompagnée. C'est parce que souvent les entreprises vous disent j'en ai déjà, mais c'est pas tout, C'est pas du tout la même chose, je
pense. Oui, alors j'en ai déjà. Bon, il y a l'obligation d'en avoir, de toute façon.
Non, mais souvent, ils disent ça souvent parce qu'ils ont des problèmes avec des gens qui sont là depuis longtemps et puis qui dérivent dans leur parcours. Et c'est vrai que c'est souvent plus difficile de maintenir dans l'emploi, oui. Et plus difficile.
Sincèrement, Anne, je sais pas s'il est plus difficile de recruter une personne en situation de handicap.
Non, je trouve que c'est plus difficile de maintenir.
Ou je pense que c'est à peu près la même chose, quoi. Le maintien dans l'emploi, c'est aussi, on intervient aussi à ce niveau-là. C'est aussi compliqué. D'ailleurs, on gère un SAMEP.
C'est souvent plus compliqué parce qu'en fait, il y a des partenaires, enfin des collègues qui travaillent avec les personnes qui ne leur connaissent plus, qui ne savent plus comment gérer. Alors que quand vous embauchez une personne, vous accompagnez, comme vous faites très bien.
On sait.
Ouais. Et y a moins de surprises souvent.
C'est vrai que ce qui déclenche un maintien à l'emploi, ça part négativement. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation un petit peu de rupture, on déclenche un maintien, donc avec un service comme le SAMET, par exemple, qui fait partie du
d'émergence,
donc à Évry. C'est beaucoup plus positif quand on parle d'insertion, pour le coup.
Oui.
On va dire que c'est un départ.
Voilà. Et puis aussi, comme vous dites, malheureusement, quelquefois, on intervient, c'est très tard. On aperçoit que la personne manque, elle revient, puis quand on dit il y a quelque chose qui va pas, c'est vraiment un peu tard. Donc c'est là où c'est important peut-être de signaler le plus vite possible.
J'allais presque dire comme dans la vie, hein, c'est le dialogue qui est important, c'est l'échange, c'est l'écoute, c'est l'empathie, regarder l'autre, c'est voilà, et c'est oser
dans les grandes
en parler.
Entreprises, c'est pas toujours.
Non, c'est sûr. Puis on a quelques exemples d'entreprises, c'est vrai, pour lesquelles ça a été malheureusement très compliqué, plus difficile aussi. Mais oui, je pense que j'allais presque dire, ça fait partie de notre cheval de bataille au niveau de l'association. On est une grande équipe et en dehors même du handicap, on a soin à essayer de vivre ensemble puisque c'est un peu ce qui nous rattache, hein, c'est un peu notre slogan.
C'est tout à fait votre slogan d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait notre slogan. Donc, et moi, ça me va très très bien, quoi.
S'il y a une entreprise là qui est en difficulté, alors elle peut vous appeler directement.
Oui, complètement. Bien sûr, s'il y a un trouble au niveau de l'entreprise, d'un doute. Nous, on est là pour essayer de rassurer non seulement les personnes qui sont dans cette souffrance et dans ce type de handicap, mais aussi l'encadrement, les collègues, etc. Oui, sans souci, au contraire.
Moi, je souhaite ça. C'est important. Ouais. Donc, vous avez sûrement un site internet.
www.vivre-asso.com.
Voilà.
Site internet, réseaux sociaux.
Et alors, le dernier mot à notre grand témoin, Maclouf, alors qu'est-ce que vous diriez sur votre expérience et puis tout pour donner de l'espoir?
Un dernier mot, je m'adresse à toutes les personnes handicapées, donc il faut qu'ils s'accrochent. Malgré les difficultés, ils peuvent toujours s'en sortir. Il y a toujours des équipes professionnelles et compétentes pour les aider.
Voilà, il faut pas rester seul. Merci beaucoup à tous.
Merci,
et puis vous revenez quand vous voulez.
Merci.
Après, dans 6 mois, 9 mois, là, pour nous dire comment ça, les 200 personnes, là où vous en êtes avec la DPH.
D'accord, volontiers. Merci.
Merci, au revoir.
Merci à vous.